au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour?
Il y en a qui se tournent quatre fois la langue dans la bouche pour pas hurler de désarroi.
Ben oui, parce qu'avec la neige aujourd'hui, on pourrait le faire, n'est-ce pas? Avec le temps, le froid. Ben moi, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a quatre fois plus de neige qu'hier. Je sais pas si c'est vrai, là, mais en tout cas. Allô, Daniel Rioux, que j'entends
Bonjour.
Rigoler.
Ben oui. Il y a de la neige, peut-être. Oui, quatre fois plus, peut-être un petit peu plus. Mais c'est ça, l'hiver. C'est plus doux. Alors, c'est agréable.
Oui, mais pas encore assez. Ça fait trois jours que vous connaissez Gustave. Le personnage dont on parle dans cette émission, puis qui n'est jamais là, parce que s'il était là, j'apprends. C'est mon petit chien. Alors, à 6,5 livres, il n'est pas très haut sur pattes, puis il n'est pas assez, comment je pourrais dire, enrobé pour le froid.
Oh non, il sera engouffré par la neige.
Ouais, après, en bas de moins 15, en fait, je vais jusqu'à moins 12, moins 13, puis après ça, non. Même avec des bottes et un manteau, là, c'est
trop pour... mon Dieu, ça doit être beau de le voir. Les bottes doivent être courtes un petit peu. Par exemple, ils ont les pattes courtes, ces chiens-là.
Oui, mais il est vraiment génial. Il adore la neige. Puis en fait, là, c'est ça. J'étais à Québec en fin de semaine pour aller voir la fantastique pièce de théâtre Querelle de Robert Valls. Je vais en parler à notre émission plus tard, la semaine prochaine. Mais vraiment, j'ai amené là-bas, puis là, ben, pauvre petit, il ne pouvait pas sortir, puis il regardait par la porte patio.
Oh, il a rêvé ça, mais il va avoir l'occasion de sortir
bientôt.
Dès
que ça réchauffe un peu, oui.
Ben oui. Il perd rien pour attendre.
Oui, ben je vais passer tout de suite d'ailleurs à notre ami Louis de Bernis. Est-ce que le vélo de Louis se plaint de ne pas sortir en hiver?
Le vélo fonctionne un peu dans mon appartement, sur les rouleaux d'entraînement, et il attend sagement que les beaux jours reviennent, effectivement.
Puis, de toute façon, il paraît que Mathieu, lui, il adore la neige et le froid.
Oui.
Et je me suis retenu, je n'ai pas parlé d'ours. Bon, justement, puisqu'on parle d'hiver, il n'y a rien de mal à être un nounours. C'est tout à fait bien correct. Puisqu'on parle d'hiver, en passant, c'est un événement météorologique majeur qui balaie l'est du continent. Toronto, il y est tombé 54 cm de neige. En tout cas, c'était ce qu'il y avait comme chiffre ce matin quand j'ai vérifié. Puis ici, dans la province, hein, de 15 à 25 cm dans le sud et l'est du Québec. Alors, on va pelleter encore. Mais à Toronto, je ne sais pas si l'armée va venir encore une fois. Puis il y a des pannes d'électricité. Alors, j'imagine que ceux qui ont des pannes, qui nous écoutent sur leurs données de cellulaire sur Canal M. Ben oui, il y a à peu près 5000 personnes privées d'électricité. Il y a des problèmes avec le REM qui est obligé de ralentir entre certaines stations. Et puis, si vous devez voyager aujourd'hui, ben, le train, ça, c'est peut-être pas trop compliqué, ce que j'ai fait hier, mais je vous avise, si vous voyagez en avion, le tiers des vols sont annulés à Pearson, à Toronto. Et je sais pas combien, mais il y a beaucoup d'annulations ici à Montréal. Alors, bref, les joies de l'hiver. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler de plusieurs sujets. On va parler du Parlement, Parlement jeunesse, en fait, c'est la Jeune Chambre de Montréal. Et c'est vraiment, ou le jeune Conseil de Montréal, excusez-moi, qui donc est un peu comme le conseil municipal, mais avec des étudiants, des jeunes. Alors, on va en discuter avec le président du comité exécutif du Jeune Conseil de Montréal, Louis Roux, qui va être en studio tout à l'heure. Et on va aussi parler de cette agence qui s'appelle l'Agence Bleue Station, ou Station Bleue, pardon, qui agit comme une courroie de transmission pour faire rayonner les talents d'ici aux quatre coins du globe. Et puis, malheureusement, on devait parler de la pièce un langage clair. Je vais peut-être vous en faire une petite recension tout à l'heure que j'ai vue la semaine dernière, mais malheureusement, il y a un petit souci de disponibilité avec la personne qu'on devait interviewer. Aujourd'hui, les anniversaires. Paul Newman, acteur et réalisateur états-unien, l'un des plus grands noms d'Hollywood, connu pour ses rôles dans des films comme L'Arnaqueur et Butch Cassidy et le Kid, ben, c'est son anniversaire de naissance aujourd'hui. Il est venu au monde en 1925. Wow! Il aurait 101 ans, mais je pense qu'il est mort, Paul Newman, non?
Oui, il est mort.
Ouais. Là, c'est parce qu'il y a un paragraphe qui manque à ma petite feuille. Je pense que c'est par erreur que j'ai envoyé. Merci de me le confirmer. Ellen DeGeneres, aujourd'hui, c'est en 1958. On la connaît, animatrice de télévision, humoriste. Elle est connue pour son coming out à la télé. On se rappelle quand elle a dit « Yep, I'm gay ». C'était dans le Ellen DeGeneres Show, puis elle faisait un talk show aussi par la suite. Et puis aujourd'hui, c'est 1961, il a 65 ans, Wayne Gretzky, joueur de hockey, souvent considéré comme un des plus grands joueurs de hockey de tous les temps, qui malheureusement, ou heureusement, selon certains, entretient des liens d'amitié avec Donald Trump. Et puis, on va souhaiter bonne fête nationale à nos amis de l'Australie. C'est leur journée nationale aujourd'hui. C'est l'arrivée, donc, de la première flotte britannique à Sydney en 1780. C'est l'occasion de festivités, de rassemblements communautaires. Puis, je pense peut-être que de manifestations de la part de certains autochtones ou aborigènes là-bas. Puisque j'ai plus de temps aujourd'hui, je vais me permettre une petite recension. Tiens, je suis allé... la semaine dernière, il y avait 8 première de théâtre dans la même semaine à Montréal. Je suis allé voir aussi la première de la pièce de théâtre qui s'appelle Top Girls à l'Espace Go. Donc, c'est une relecture par la metteuse en scène Edith Patnaud. Et puis, oui, c'est une réécriture de la pièce aussi par Sarah... Ah, mon Dieu, je n'ai pas pris le nom en note, mais ça va revenir tout à l'heure. Alors, c'est une pièce qui avait été écrite dans les années 80 par Carol Churchill. Bien que la pièce soit profondément ancrée dans le thatcherisme des années 80, bien, Patnaud nous le rappelle habilement en intégrant des extraits du discours de Mme Thatcher. Le résultat est d'une actualité brûlante. On y explore le prix glaçant du pouvoir et cette réussite au féminin qui, pour s'imposer, doit parfois emprunter les pires travers du patriarcat. L'adaptation d'Edith Patnaud réussit ce tour de force, transformer un texte historique en miroir cinglant de nos ambitions contemporaines. La mise en scène, elle est sobre, tranchante et laisse toute la place à une distribution 5 étoiles. Alors, je vais quand même souligner le travail exceptionnel de F. Presso, qui est impeccable dans le premier rôle, qui est de Marlène, cette femme de tête, qui sacrifie tout pour gravir les échelons. Face à F. Presso, Christine Beaulieu, Cynthia Womaheu et Laura Côté-Bilodeau, entre autres, là, qui nous livrent des performances d'une intensité rare. Le premier acte, c'est un banquet surréaliste où des femmes de différentes époques se rencontrent. C'est un véritable tour de force technique et émotif. C'est vraiment bien fait. Je pourrais vous en dire longtemps, mais cette espèce de table avec un trou dans le milieu, puis tout le monde sort du trou comme s'il se faisait sortir et réabsorber par le trou. C'est quand même extraordinaire. Et comme le souligne Edith Patnaud, d'abord, c'est que ce miroir violent est sans doute l'une des rares façons de reprendre le pouvoir sur nous, nos destinées. On parle des destinées des femmes, évidemment. C'est un théâtre exigeant, sans compromis, qui nous force à nous demander à quel prix voulons-nous réussir. Hein? Je cite Edith Patnaud, Top Girls, je vous le recommande, est présenté à l'Espace Go jusqu'au 14 février.
Elle m'appelle Capo, quand j'entends sa voix, ça y est. Elle veut plein de cadeaux, en pull-up chez Lafayette. Ils étaient pas là quand on bataillait. Fais ton sac, on se taille, hôtel Pattaya. Jamais on cap, j'ai appris des gros bonnets. Quand tu claps, de derrière je vais détonner. Elle crie quand je parle en mouvement. Elle me dit baby, t'étais où tout ce temps? Elle mérite les diamants de ma white. Pour elle c'est le minimum. Mais ce soir elle s'en fout de la moula. Elle veut juste des minimums. Doucement. Même quand elle vient, j'arrête pas. J'lui donne tout, tout le temps. Elle sait que le boug est en place. Vanté, j'suis entré, laissé son cœur hanté. Elle me dit, j'suis tombé love, bébé, me lâche pas. Dans son cœur, j'suis entré, comme un brigandé. Elle me dit, j'suis tombé love, bébé, me lâche pas. Sur le terrain comme Nakata. Nako, Tiango, Nakati. 2, 3, 4 fois, y'a pas de drap. Retenons qu'on n'est pas fatigué. Baby sac à fait, j'suis dans mes affaires, on parle pas nous on fait. Hein? J'en vois ce qu'il faut, mes gars sont à fond, appelez quand c'est fait. Elle mérite les diamants de ma white, pour elle c'est le minimum. Mais ce soir elle s'en fout de la moula, elle veut juste des minimums. Doucement, même quand elle vient j'arrête pas, j'lui donne tout, tout le temps. Elle sait que le boug est en place. Quand t'es, j'suis entré, laissé son cœur hanté. Elle me dit, j'suis tombé love, bébé, me lâche pas. Dans son cœur, j'suis entré, comme un brigandé. Elle me dit, j'suis tombé love, bébé, me lâche pas. Quand j'pousse, doucement, même quand elle vient, j'arrête pas. J'lui donne tout, tout le temps. Elle sait que le boug est en place. Quand t'es, j'suis entré, laissé son cœur hanté. Elle me dit, j'suis tombé love, bébé, me lâche pas. Dans son cœur, j'suis entré, comme un brigandé. Elle me dit, j'suis tombé love, bébé, me lâche pas.
Oui, la chanson Diamant avec Ya Cetadone. Et là, il repart en voiture dans le vidéo.
Ah, oh, ben voilà. Juste pour corriger, alors j'avais omis d'imprimer, d'inclure un des paragraphes. Là. Alors, Paul Newman est mort en 2008 et c'est Sarah Bertiom qui a traduit la pièce Top Girls dont on voit cette production extraordinaire au théâtre Espace Gros. Espace Go. Voyons, on dépasse ce matin. Dans les actualités, bien évidemment, c'est un événement météorologique majeur qui retient l'attention, qui balaie l'est du continent. Alors, après Toronto, qui a reçu comme 54 cm de neige, et là-bas, tout est bloqué, hein, c'est quelqu'un de le dire, bien, c'est des accumulations de 15 à 25 cm qu'on attend dans le sud du Québec et dans l'est de la province ce soir. Et puis, voilà, je vais continuer. Excusez-moi, parce que j'entends, il y a un coulage de son dans mes écouteurs. Voilà, je pense qu'il y a un micro qui est resté ouvert. Alors, la presse, la neige et le froid jouent des troubles faits, donc, au Québec. Les écoles à Montréal demeurent ouvertes, mais le transport collectif est drôlement affecté. Un bris de rails sur le réseau du REM force actuellement les usagers à effectuer les transferts aux stations Côte-de-Liesse et Bois-Franc. Sur le plan de l'énergie, il y a toujours 5000 foyers, là, ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, qui sont privés d'électricité dans la région de Montréal. On prévoit un rétablissement très, très, très prochain parce qu'il faut le dire, il y a des températures qui descendent jusqu'au moins 25, même dans les prochains jours. Et puis, tout ça pour dire que le chaos, lui, persiste dans les airs avec de nombreuses annulations de vols vers les Maritimes, Toronto et les États-Unis. En fait, il y a un tiers des vols à partir de Pearson à Toronto qui sont annulés aujourd'hui et plusieurs. Alors, vérifiez avant de vous rendre à l'aéroport. Déjà que c'est pas facile de se rendre là quand il fait beau. Imaginez que maintenant, il fait pas beau. Puis en plus de ça, votre vol risque d'être annulé. Alors, vérifiez bien. Chez nos voisins des États-Unis, la situation est ailleurs critique. Une accumulation de 30 cm de neige paralyse le nord-est de l'Arkansas jusqu'à la Nouvelle-Angleterre. On dénombre plus de 12 000 vols annulés. D'ailleurs, on dit qu'il y a eu 11 morts aux États-Unis de cette tempête et il y a plus d'un million de personnes là-bas qui sont privées d'électricité. Alors, si vous prenez la route prudence, la neige se dirige vers les Maritimes. On prévoit jusqu'à 35 cm de neige pour la Nouvelle-Écosse. Et puis, tant qu'à faire de la météo, pour l'ouest du pays, ça demeure froid dans les prairies et puis il y a du soleil sur la côte ouest.
La chanson ne me fait pas mal d'Édouard Tremblay Grenier.
Bon, alors Daniel, est-ce que les démences sont causées par les problèmes de connexion Internet qui ne fonctionnent pas, les tempêtes de neige ou encore parce qu'on voit la télévision? J'en ai pas parlé par exprès, je vais en parler plus tard de ce qui se passe au sud de la frontière. Non, sérieusement, démences seraient-elles évitables?
Ben, elles sont évitables grâce à nos habitudes de vie, puis on parle surtout d'exercice. Et ça a paru cet article dans le site La Conversation, The Conversation en anglais, et c'est daté du 20 janvier, c'est tout récent, là, la semaine dernière, parce que c'est présenté par un professeur de l'Université de Montréal, Louis Bérer, qui lui est directeur, qui est au département de médecine de l'Université de Montréal, et il est aussi chercheur au centre EPIC, hein, pour ceux de Montréal qui connaissent, c'est le centre de médecine préventive et d'activité physique de l'Institut de cardiologie de Montréal. Donc, on commence l'article comme ceci. On dépense des milliards de dollars à rechercher la molécule qui soignera la maladie d'Alzheimer. Mais l'adoption de certaines habitudes de vie pourrait, entre-temps, justement, réduire significativement le risque d'en développer les symptômes. C'est ce que confirme, en tout cas jusqu'à près de la moitié des cas, c'est ce que confirme le docteur Louis Bérer. Parce que le docteur Louis Bérer a son laboratoire montréalais, il et son équipe élaborent des programmes d'exercice tant physique que cognitif, et les résultats justement corroborent ceux d'autres recherches sur l'importance du mode de vie dans la prévention des démences, une donnée négligée par la santé publique, explique le docteur Louis Bérer. Il y a une nouvelle étude de Statistique Canada sur l'espérance de vie en bonne santé indique un recul substantiel au Canada. C'est qu'en 2023, elle était de 66,9 ans, une baisse de 3,5 ans par rapport au sommet de 70,4 ans atteint entre 2010 et 2012. Alors, est-ce que ça nous surprend cette baisse-là? Donc, cette baisse de 3,5, justement. Oui. Ben, Seigneur, ça revient bien de la misère, hein?
Ça arrive à d'autres qu'à moi ces jours-ci.
Ben oui, puis j'adore ça, parce que ça fait du bien, on n'est pas parfait, puis j'adore des fois me mêler un petit peu. Alors, je continue. Le docteur Louis Bérer, lui, ça ne le surprend pas. Ça ne le surprend pas, oui et non, parce que le fait que ce qu'on appelle le health span life span gap, c'est-à-dire l'écart entre l'espérance de vie et l'espérance de vie sans maladie, s'accentue. Hein? Alors, par exemple, il dit 9 personnes sur 10 ont au moins un facteur de risque de maladie cardiovasculaire après 65 ans. Il y a aussi le surpoids, le mauvais sommeil, l'inactivité, l'hypertension, etc. Et comme l'espérance de vie augmente, hein, on risque de vivre plus longtemps, ben, ça fait plus d'années en moins bonne santé. Ça, ce qui n'est pas vraiment drôle non plus.
Oui, parce qu'on dit vivre vieux et en santé, mais vivre vieux pas en santé, c'est moins intéressant. Ça.
Ah oui, passer ses journées à regarder un mur blanc, ça doit être assez ennuyant. Alors, notre mode de vie n'est pas optimal. Donc, on pense, on en parlait, le stress, l'anxiété augmente. C'est un fléau aussi. Hein, vous en parliez un peu plus tôt aujourd'hui. Problème avec l'Internet, la neige qui tombe, le REM qui fonctionne à moitié. Alors, les gens, en plus de ça, les gens sont inactifs. Ils ajoutent des problèmes de sommeil. Leur alimentation est négligée. Ils vont donc vers du fast-food. On mange plus vite parce qu'on est pressé. Ou encore on mange des aliments ultra transformés avec bourrés de sodium, bourrés de gras. Alors, pourtant, l'information est là, hein, c'est une question d'éducation qui est disponible, mais on n'adopte pas toujours les actions nécessaires. Manque de temps, manque de ci, manque d'éducation par rapport à certaines notions. On ne l'enseigne pas non plus aux enfants. Hein? Sauf que si on ne l'a pas pour soi, on ne peut pas l'offrir à l'autre. L'éducation physique devrait faire partie du cursus scolaire au quotidien et il faudrait aussi enseigner les bases de la nutrition, c'est-à-dire de la bonne nutrition.
Mais en tout cas, on n'est pas sur la bonne voie parce que ce qu'on voit aux États-Unis, le nouveau guide alimentaire préconisé par RFK Junior... Hein, c'est beaucoup de viande rouge, puis...
Tout ce qu'il ne faut pas, alors qu'on pourrait manger des bonnes protéines végétales, puis manger du poisson, manger mieux. À travers tout ça, au-delà de manger, il y a les exercices d'équilibre et de contrôle de la posture peuvent faire une énorme différence sur la santé et les habitudes de vie des personnes âgées. Par ailleurs, les gens se tournent vite, et là, on entend beaucoup parler, vers la médication, puis là, on pense aussi à la popularité de l'Ozempic, c'en est un exemple flagrant, et on souhaite perdre du poids. Donc, on croit à la magie, mais on ne s'attaque pas aux causes de ce surpoids. On ne fait pas grand-chose pour inciter les gens à changer leur mode de vie. Or, on évalue que près de la moitié des démences, soit 45 % pourraient être évitées avec un mode de vie adéquat.
Tu me permets, Daniel, oui, je vais quand même mettre un petit bémol parce que je ne veux pas qu'on interprète ce qu'on dit présentement comme étant de la grossophobie. On parle de problèmes de surpoids qui causent des problèmes de santé parce que gros n'est pas nécessairement un signe de mauvaise santé, juste pour que ça soit clair. Là.
Oui, c'est important de le dire parce qu'il y a des gens, c'est ça, ça peut être un état. Puis, oui, tout à fait, mais ceux qui pourraient faire un effort, qui n'ont pas ce problème de grossophobie-là, cet état de grossophobie, eux, ils sont dans la mire là, à ce moment-là. Mm-hmm. Puis il y a 14 facteurs de risque de la démence. Alors, la première, c'est l'inactivité physique. Il y a aussi le tabagisme, fumer, la consommation excessive d'alcool. Et il y a aussi la pollution atmosphérique, des lésions cérébrales, suite à un accident, une faible interaction sociale, faible niveau d'éducation, il y a l'obésité, il y a l'hypertension, il y a le diabète, en 11e position, la dépression, la déficience auditive aussi, il y a le fameux cholestérol, votre fameuse viande rouge, là, et la perte de vision. On pose la question à Dr. Bérère, est-ce que bien des gens se disent, j'ai 60, 65 ans, 70, est-il trop tard pour moi pour commencer? Ah non, comme il dit, il n'est jamais trop tard, même si on sait que l'éducation, qui est un facteur atténuant des démences, s'acquiert généralement jeune. Au contraire, les troubles de l'audition qui surviennent plus tard dans la vie, il y a bien des gens, au contraire, des troubles de l'audition qui surviennent plus tard dans la vie, c'est quand on vieillit souvent, là. Bien des gens ne le prennent pas au sérieux, ce problème d'audition-là. On le camoufle et pourtant, c'est un facteur associé à l'augmentation des risques de troubles cognitifs majeurs ou de démence. Hein? Vous devez connaître des gens qui entendent moins bien. Puis c'est quelque chose qu'on camoufle. Hein? Beaucoup. Bien sûr, il y a la santé psychologique, ça joue un rôle majeur. Une personne qui est inactive, elle sent plus déprimée, voire aller à la dépression ou moins motivée, puis ça accentue les risques. Alors, ces 14 facteurs-là sont très importants. On pose la question, votre laboratoire est axé sur la santé cognitive, et justement installé, ce laboratoire-là est justement installé à l'Institut de cardiologie de Montréal. Ça consiste en quoi, ces travaux-là, vos travaux, Dr. Bérère? Alors, le Dr. Bérère mentionne, l'âge de nos participants varie entre 50 et 95 ans, avec une moyenne entre 68 et 70 ans. On suit ces patients-là pendant 3 mois et 1 an. Ils peuvent avoir des déficits cognitifs légers, ces gens-là, notés par leur entourage. Les gens, celui qui a des déficits cognitifs, ça n'en aperçoit peut-être pas, mais son entourage, oui. Il peut souffrir d'anxiété, une condition qui peut avoir un impact sur la mémoire et être un prédicateur de démence. Il y a d'autres participants, eux, qui n'ont pas d'enjeux cognitifs, mais ils présentent des risques en raison de leur hypertension et du diabète. Qu'est-ce qu'ils leur font faire à ces gens-là? C'est des jeux de mémoire sur des téléphones, par exemple, ce qui améliore le côté cognitif, notamment la vitesse psychomotrice, ainsi que des exercices physiques, comme par exemple faire du vélo stationnaire. Louis il a bien commencé. Tapis roulant, renforcement musculaire et encore mieux, c'est la combinaison des jeux et des exercices. Puis qu'est-ce qu'on constate donc? Alors, le Dr. Bérère, il dit que les participants qui ont des troubles cognitifs légers peuvent voir des améliorations après 6 mois d'entraînement, des différences au niveau de leur attention, de leur vigilance, de leur vitesse de réponse. Ils sont d'ailleurs plus éveillés, et ce, après quelques semaines seulement. Et aussi, on voit aussi un impact sur la mémoire, même si ça prend plus de temps pour la mémoire. L'entraînement physique que les participants font 3 fois par semaine stimule la production de protéines qui favorisent la neuroplasticité. Et quand les muscles travaillent, ils produisent et libèrent des myokines et d'autres exercices. C'est des molécules qui jouent un rôle important sur le métabolisme, l'inflammation, la santé osseuse et même l'humeur. Comme on le dit souvent, l'exercice est la pilule miracle pour la santé globale. Il y a bien des gens, comme on lui pose la question, qui entreprennent des changements en profondeur de leur mode de vie, mais ces bonnes intentions ne tiennent pas toujours. Hein? C'est tenir le cap là, qui est important. Puis lui, évidemment, le Dr. Bérère trouve que c'est dommage, car les effets positifs de l'entraînement disparaissent rapidement, écoutez bien, en 1 mois et 1 mois et demi. Alors, ça va très vite. Et plus on vieillit, plus c'est rapide. Alors, idéalement, il faut choisir des activités qui s'intègrent facilement dans notre routine quotidienne. Lui, il pense à la course, un exercice qui est très complet, très facile à faire, qui coûte pas cher. Il y a aussi la marche rapide, mais l'idée de suer un peu, pas d'aller à fond de train, et de compléter avec des exercices pour accroître la force musculaire. Ça, on oublie ça, la force musculaire, et d'autres pour améliorer la posture et la mobilité. Parce que pour lui, c'est un facteur important d'autonomie en vieillissant. La peur de chuter, on a peur de tomber, est une préoccupation pour plusieurs personnes âgées. Et les exercices d'équilibre, de contrôle de la posture, on pense au yoga, peuvent vraiment faire une énorme différence sur la santé et les habitudes de vie des personnes âgées. Et je pense que c'est des habitudes aussi qu'on peut prendre beaucoup plus jeunes, là, à notre âge ou même avant, mais de persévérer dans cette veine-là. Dans le site la conversation, où la version anglaise de Conversation, il y a une section qui s'appelle Révolution grise, et je tiens à le mentionner, parce que ça pourrait être intéressant pour les gens qui veulent faire une petite recherche Internet et trouver de bons articles comme celui-là. Justement, le site La Conversation propose d'analyser sous toutes ses formes et facettes l'impact du vieillissement de l'imposante cohorte des boomers sur notre société et qui transforme depuis leur venue au monde. On y aborde dans cette série qui s'appelle La Révolution grise, la manière de se loger, de travailler, de consommer la culture, de s'alimenter, de se soigner, de voyager et de vivre. Et vous pouvez, en cours de route, parce que les articles sont quand même récents et bien soutenus, découvrir les nombreux bouleversements qui peuvent se passer dans cette période de vie qu'on appelle la révolution grise.
Wow! Bon, ben écoute, on a des bons conseils. Puis comme je dis, je le répète, hein, faire attention à sa santé. Si on a un petit problème de surpoids qui cause des problèmes de santé, ben on en prend soin. On fait du vélo stationnaire comme fait Louis de Bernis ou peut-être de vélo normal l'été.
Puis, oui!
Hein, puis on se tient occupé. Puis on se laisse pas trop abattre par les difficultés qu'on vit présentement.
Et vous savez de quoi vous parlez.
Oui, ben non, mais moi, ça, c'est un problème de
technique.
C'est un problème d'une personne affluente, là, parce que oui, j'ai des problèmes d'Internet à la maison. Oui. Ça dure depuis un mois. C'est épouvantable. Ça me rend fou. Mais bon, je m'en plaindrai pas en onde quand même.
Mais non, mais il faut ventiler. Là, vous le dites à vos amis autour, ça ventile, ça passe un petit peu, ça fait du bien. Puis ça vous permet de continuer bellement.
Et ça me permet
journée.
D'en rire, de toute façon.
Oui,
alors, voilà, on termine là-dessus, Daniel, à la semaine prochaine. Puis après la pause, on va maintenant parler à Louis de Bernis et de sa chronique insolite. À tout de suite.
Vous pouvez rejeter au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Allô? Oui. Souvenir d'adolescence, je mange un bol de Corn Pops. J'écoute le réseau des sports, c'est une game de mini-pot. Comme tous les dimanches, Calc Harmony s'élance. L'animateur s'enflamme et puis on l'entend crier. Ça se pourrait, ça se pourrait,
ça se pourrait,
que la balle rentre puis que Harmony gagne. Ça se pourrait,
ça se pourrait.
Sur le top. Quand j'écoute le mini-pot, je vais sur le top. Quand j'écoute le mini-pot, je vais sur le top. De voir un bébé, ça me fait capoter. Quand j'écoute le mini-pot, je vais sur le top. Quand j'écoute le mini-pot, je vais sur le top. Quand j'écoute le mini-pot, je vais sur le top. De voir un bébé, ça me fait capoter. À l'époque, le mini-pot roule fort, la moustache est en vogue, pis Harmony c'est toute qu'une star. Fait que quand on joue des 18 trous, on copie tous ses moves, on se laisse pousser le pinch move, pis on crie à chaque coup. Ça se pourrait,
ça se pourrait,
ça se pourrait, que la balle rentre, pis que ce soit moi qui gagne. Ça se pourrait,
ça se pourrait,
ça se pourrait, que la balle rentre, pis
veille sur le top. Quand j'écoute le mini-pot, je veille sur le top. Quand j'écoute le mini-pot, je veille sur le top. Te voir reverber, ça me fait capoter. Quand j'écoute le mini-pot, je veille sur le top. Quand j'écoute le mini-pot, je veille sur le top. Quand j'écoute le mini-pot, je veille sur le top. Te voir reverber, ça me fait capoter. Quand j'écoute le mini pot, j'vais sur le top. Quand j'écoute le mini pot, j'vais sur le top. Quand j'écoute le mini pot, j'vais sur le top. Te voir un birdie, ça me fait capoter. Quand j'écoute le mini pot, j'vais sur le top. Quand j'écoute le mini pot, j'vais sur le top. Quand j'écoute le mini pot, j'vais sur le top. Te voir un birdie, ça me fait capoter. Quand j'écoute le mini pot. 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 J'écoute le mini pot, je vais sur le top. Te voir un birdie, ça me fait capoter.
Le groupe, c'est Blue Jeans Bleu. Savez-vous c'est quoi le nom de la chanson?
Je pense que c'est Mini Pot. Ça se peut-tu?
Oui.
On n'est pas loin, hein? Ah oui, ah oui. Hey, Louis de Bernis, le Mini Pot, je vois ça.
Oui, pas depuis longtemps, ça m'est arrivé. Oui.
Ouais, je pense que c'est typiquement québécois. Ça n'a pas existé en France, ça.
Ça existe dans les camps de vacances, dans les clubs med, il y en a toujours du mini-pot.
Bon, ah, ouais, ouais, ouais. Bon, 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 haut les mains, haut les mains. Ah, ben nous, on va parler dans la chronique insolite, hein, on va parler... Ah, mon Dieu, ça me fait rire quand j'ai vu ce titre. Un Canadien s'est fait passer pour un pilote et un agent de bord afin d'obtenir des centaines de vols gratuits. Explique-moi tout le monde comment ça marche, je vais peut-être m'en prévaloir.
Oui, on en aurait parfois besoin parce que ben, ça peut coûter cher un vol. Lui a trouvé l'astuce, visiblement, pendant plusieurs années et pour des centaines de vols pour voyager gratuitement. Son nom, Dallas Pokornik, il a 33 ans, il est Canadien, originaire de Toronto. Et récemment, ben, il a été arrêté au Panama après avoir été mis en accusation pour fraude électronique par un tribunal fédéral d'Hawaï en octobre dernier. Il a plaidé non coupable mardi passé après son extradition aux États-Unis, mais son histoire est assez incroyable. Selon les documents judiciaires, M. Pokornik a été agent de bord pour une compagnie aérienne établie à Toronto. Ça, c'était entre 2017 et 2019. Puis, il a utilisé une fausse carte d'identité d'employé de cette compagnie pour obtenir des billets réservés d'habitude aux pilotes ou aux agents de bord de trois autres compagnies aériennes. Il a fraudé, en fait, tout simplement.
Juste pour comprendre aux gens, c'est quand, lorsqu'on on travaille pour une compagnie aérienne, on a des rabais parce qu'on travaille dans l'industrie. Après, à peu près toutes les compagnies font des échanges comme ça. Puis je pense que ça peut aller jusqu'à 90 % de rabais selon les compagnies.
Oui, oui, oui. Puis suivant le degré, si on a une carte de commandant de bord, par exemple, oui, ça peut être très élevé, ça peut être même des gratuités parfois. En tout cas, les procureurs américains ont déclaré que, ça c'est un détail amusant, que M. Pokornik a peut-être même, pour certains vols, demandé à s'asseoir sur le siège supplémentaire dans la cabine de pilotage.
Le jump seat qu'on appelle, oui.
Oui, le siège d'appoint, généralement réservé aux pilotes hors service qui veulent voyager tranquillement. Bon, ça c'est une rumeur. Les documents judiciaires ne permettent pas de savoir s'il a réellement pris place sur ce siège tant convoité. Mais l'acte d'accusation est très sérieux, il encourt de grosses peines. On ne connaît pas exactement les compagnies aériennes qui l'ont laissé voyager gratuitement. On sait quand même qu'elles sont basées à Honolulu, à Chicago et à Fort Worth au Texas. Les représentants de compagnies qui sont fortement supposées, Hawaii Airlines United, United Airlines et American Airlines, sont établis dans ces villes, donc il s'agit probablement...
J'allais donner les titres, les noms des compagnies, effectivement.
Oui. Mais elles n'ont pas communiqué, hein, et on se doute qu'ils veulent rester discrets sur ces sujets-là. On ne sait pas non plus quelle est la compagnie aérienne qui est établie à Toronto pour laquelle il a vraiment travaillé. Air Canada indique qu'ils ont vérifié et qu'il ne s'agit pas d'eux. Le siège d'Air Canada est situé en plus à Montréal. Donc il y a un doute sur la compagnie pour laquelle il a vraiment travaillé entre 2017 et 2019 et grâce à laquelle il a obtenu de faux papiers. En tout cas, il est désormais en détention aux États-Unis. Il a été extradé et il va y avoir une grande enquête parce que ça pose des vrais problèmes de sécurité quand même si quelqu'un peut voyager comme ça aussi librement. Vous l'aurez aussi entendu, ce n'est pas sans rappeler un film qu'on a peut-être tous vu avec Leonardo DiCaprio, ce Catch Me If You Can, dans lequel c'était ce qui se passait. Hein, Leonardo DiCaprio voyageait gratuitement et avec culot, avec aplomb, réussissait à se faire passer pour un commandant de bord. C'est ce qui s'est passé donc pendant 4 ans et des centaines de vols pour ce citoyen canadien qui désormais a des problèmes avec la justice.
Ouais, oui, ça prouve que le crime ne paie pas habituellement. Mais moi, je dois vous dire que j'avoue, je vais mettre une anecdote parce que j'étais en couple avec un agent de bord d'une compagnie américaine et jusqu'aux attentats du 11 septembre 2001, il était possible pour moi en tant que conjoint de voyager sur ce fameux siège d'appoint. C'est fabuleux. C'est vraiment triste de ne plus pouvoir le faire. C'est fabuleux parce que je me rappelle, on atterrissait à Heathrow et de voir, parce qu'on voit tellement bien tout ce qui est devant nous, c'est extraordinaire. Alors, je suis vraiment surpris qu'avec toutes ces mesures de sécurité, n'importe qui est encore capable d'aller chercher ce genre de billets et surtout ce genre d'accès. Parce que le siège d'appoint ou le siège qu'on appelle jumpsuit dans une cabine, c'est quand même c'est problématique que quelqu'un puisse aller là sans avoir la permission. Cela dit, on va changer de sujet. Pour sécher l'école, un enfant de 9 ans met le thermomètre au four pour une fièvre et déclenche une explosion.
Oui, ça aurait pu très mal se terminer cette histoire. Heureusement, si je vous la raconte, c'est que tout le monde va bien. Ça s'est passé en Allemagne. Le plan, il faut le dire, était plutôt malin. C'est un enfant dont le cerveau fonctionne bien. Bon, l'exécution, elle, a été plus catastrophique. C'était mardi passé, un enfant de 9 ans, scolarisé à Schwandorf, en Allemagne, a tenté de faire l'école buissonnière. Il n'avait pas envie d'aller à l'école ce jour-là. Il a donc imaginé un stratagème pour convaincre sa mère qu'il était malade. Sa ruse, faire chauffer un thermomètre au four. Cette fièvre artificielle devait persuader sa maman de le garder à la maison le lendemain. L'opération a malheureusement tourné au fiasco à cause d'un petit détail chimique. Le four était réglé sur 200 degrés Celsius. Or, à cette température, le mercure qui se trouve dans le thermomètre se dilate fortement. Vers 19h, le thermomètre a tout simplement explosé dans le four. La police et les pompiers sont rapidement intervenus sur place parce que ça a fait du bruit. Et la famille a eu bien peur. Heureusement, personne n'a été blessé. Aucun incendie non plus ne s'est déclaré. Mais les secours ont dû expliquer à la famille que le four, bien que visuellement intact, était maintenant complètement contaminé au mercure et devait être remplacé. Le métal est en effet extrêmement toxique, ce qui explique notamment que les thermomètres à mercure ne sont plus vendus dans l'Union européenne depuis 2009, depuis plusieurs années. En tout cas, voilà, le four doit être remplacé, doit être mis au rebut parce qu'il est désormais complètement toxique après cette explosion. Nul doute que au prochain jour de flemme, ce garçon ira à l'école ou en tout cas changera de technique parce qu'ils en ont eu pour leur sueur froide.
Oui, parce qu'on ne dira pas pour leur argent, mais en fait, ça doit leur coûter cher parce qu'une cuisinière électrique, ce n'est pas donné non plus. Hein. On parle de presque 1 000 000 $, certains, même plus que ça dans certains cas. Oh là là. Bon, de très bonnes idées à ne pas avoir.
Exactement.
Nous, on s'en va en musique.
Danser entre tes bras.
Laura Fabian et sa chanson « Je veux danser ».
Mais un climat de terreur hein, s'installe chez nos voisins du Sud, d'après Le Devoir ce matin. Après le Minnesota, c'est au tour de l'État du Maine, État limitrophe du Québec, de se mobiliser contre les méthodes brutales de l'escouade fédérale des États-Unis, ICE. À Portland, une centaine de personnes ont été arrêtées depuis la semaine dernière par des agents lourdement armés. La violence de ces interventions, qui visent principalement les minorités visibles, a déjà, on le rappelle, mené à la mort d'un infirmier samedi, et même à Minneapolis, et un peu plus tôt, hein, d'une mère de famille, toujours à Minneapolis. Face à cette offensive de l'administration Trump, la résistance s'organise. Des églises et des organismes communautaires se transforment en véritable forteresse pour protéger les citoyens états-uniens menacés. À Cumberland, toujours dans l'État du Maine, la révérende Allison Smith a même dû demander aux membres de sa communauté à la peau noire ou brune de rester terrés chez eux pour leur sécurité. Un mouvement de solidarité citoyen sans précédent tente maintenant de faire barrage à cette impunité totale accordée aux agents fédéraux. Donc, on retourne au Minnesota. L'escouade fédérale ICE a instauré un véritable scénario de peur marqué par une violence d'État dénoncée par la population. Ces interventions brutales ciblent spécifiquement des personnes, comme je l'ai dit, ayant la peau foncée ou un accent étranger, forçant de nombreux résidents, même ceux en attente d'un statut légal, à s'isoler totalement par peur pour leur vie. Ce climat d'anxiété extrême pousse des citoyens à ne plus se rendre au travail ou à l'épicerie, tandis que des arrestations mouvementées se déroulent devant des foules médusées. Je parle bien de ce qui se passe aux États-Unis. La presse. La tension monte d'un cran, toujours aux États-Unis, justement, alors que des appels à une enquête indépendante se multiplient au sein même du camp républicain. En cause, le meurtre d'un deuxième citoyen des États-Unis par la police fédérale de l'immigration. Ce n'est pas une police, c'est une agence fédérale de l'immigration à Minnesota. Alex Pretty, parce qu'il faut s'entendre, hein, les agents de ICE ont une formation d'une quarantaine de jours, même voire une cinquantaine de jours, alors que les policiers, les vrais de vrais, font quand même des études de plusieurs années avant de devenir policier. Fait que faisons quand même la distinction entre les deux. Alors, Alex Pretty, un infirmier de 37 ans, sans histoire, a été abattu samedi lors d'une manifestation contre l'escouade ICE. Le gouvernement Trump a tenté de dépeindre la victime comme un terroriste armé, mais des vidéos de l'événement analysées par l'agence France-Presse semblent contredire cette version. On y voit l'infirmier, téléphone à la main, être abattu alors qu'il était déjà maîtrisé au sol par plusieurs agents. Cette tragédie survient quelques semaines seulement après la mort de Rennie Good, une autre citoyenne abattue dans des circonstances similaires. Alors que les ex-présidents Clinton et Obama appellent à un sursaut pour défendre les valeurs états-uniennes, la justice du Minnesota tente aujourd'hui de forcer l'administration Trump à protéger les preuves de cette intervention brutale. Ça se passe aux États-Unis, je vous le rappelle toujours et encore, c'est hallucinant. Le monde des affaires, selon la presse, est en état de choc, alors que, toujours, Donald Trump menace d'imposer des droits de douane de 100% sur toutes les exportations canadiennes. Le président états-unien réagit ainsi à l'accord commercial préliminaire conclu entre le gouvernement de Mark Carney et la Chine. Pour la Fédération des chambres de commerce du Québec, une telle mesure serait une catastrophe pour nos entreprises. Trump, qui traite ironiquement le premier ministre Carney de gouverneur, accuse le Canada de vouloir devenir un point de passage pour les produits chinois vers les États-Unis. Bien que le gouvernement fédéral assure qu'il ne poursuit pas de traité de libre-échange avec Pékin, l'incertitude plane. Rappelons que si ces tarifs entraveraient c'est sérieusement notre économie, des experts soulignent qu'ils frapperaient aussi de plein fouet les consommateurs états-uniens par une hausse massive des prix. Et puis, c'est une histoire de David contre Goliath dans le Journal de Montréal aujourd'hui qui s'opère dans le milieu de la santé. Depuis 2022, la CNSST a refusé plus de 9300 réclamations pour surdité professionnelle, soit plus de 16% des demandes. Des milliers de travailleurs, des policiers aux chauffeurs de camions comme Gilles Dubé, doivent se tourner vers les tribunaux pour faire reconnaître que leur perte auditive est liée à leur environnement bruyant. Le défi de taille, la surdité se manifeste souvent 20 à 30 ans après l'exposition, compliquant la preuve devant la commission. Pour ceux et celles et celui qui persistent, le processus peut durer des années, mais l'enjeu financier est majeur. Des appareils auditifs, ça peut coûter jusqu'à 7 000 $ tous les 5 ans. De nombreux retraités se retrouvent ainsi démunis face à des critères de reconnaissance jugés trop sévères par les syndicats. Dans le quotidien du 23 janvier en Mauricie, l'inquiétude grandit chez les personnes vivant avec un handicap. Rappelons que dès le 31 janvier, Santé Québec abolira les allocations de travail versées sur les plateaux d'intégration. Bien que Québec souhaite réinvestir ses 3 millions de $ pour favoriser des emplois standards, plusieurs craignent que cette mesure n'isole les travailleurs les plus vulnérables. Steven Plourde, âgé de 38 ans et qui vit avec la trisomie 21, fréquente deux jours par semaine un plateau de travail au cégep de Trois-Rivières. Il y fait du ménage et du lavage. À compter de la semaine prochaine, Santé Québec mettra terme à son allocation de 12 $ qui lui est versée pour travailler durant ces deux jours. Pour lui, cette petite compensation de quelques dollars par jour représentait bien plus qu'un salaire. C'était une reconnaissance de son apport à la société. On continue la musique.
Marco Emma et sa chanson « Comme un refrain ».
J'allais faire une entrevue aujourd'hui avec Amélie Dallaire. Malheureusement, un empêchement fait en sorte qu'elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Amélie Dallaire, qui est l'autrice de cette pièce qui s'appelle « Un langage clair », que j'ai eu le plaisir de voir au Théâtre Prospero à Montréal la semaine dernière, en fait, jeudi dernier, à la première médiatique. L'idée de départ semble banale. En Nicole, la protagoniste, exprime son désir profond d'aller dormir en forêt, sur le sol, avec une simple toile. Hein, on pourrait dire ça, c'est du camping. Mais là où ça devient fascinant, c'est que Nicole refuse d'utiliser des mots génériques, justement, comme camping ou tente, estimant qu'ils échouent à nommer son désir réel. On plonge alors au cœur de l'incommunicabilité. Son entourage, avec un enthousiasme envahissant, tente de traduire son rêve en y imposant des cadres sociaux et du matériel technique, dénaturant complètement son intention initiale. Visuellement, c'est une trouvaille, j'avoue, de mise en scène. Les cinq interprètes, dont l'excellente Louise Bombardier et Raphaël Lalande aussi, évoluent dans un cube exigu de 8 pieds de côté. Ils sont littéralement collés les uns sur les autres. En fait, ça donne des séances ou des séquences assez intéressantes d'interaction entre les protagonistes. Alors, ils se touchent, s'empilent, adoptent des postures corporelles totalement inappropriées selon nos codes sociaux habituels, ce qui accentue le sentiment d'étrangeté et d'absurdité. Amélie Dallaire, qui signe aussi le texte et la mise en scène, nous force à constater l'échec de nos mots pour exprimer nos émotions les plus intimes. Le cube devient une métaphore dans nos vies, un cadre qui est de plus en plus restreint, où on tente tant bien que mal de se définir les uns par rapport aux autres. C'est brillant, je le dis, c'est brillant, c'est drôle, ça nous envoie un miroir décalé sur la complexité de nos propres rapports humains. Un langage clair est présenté au Théâtre Prospero jusqu'au 7 février prochain. Ben, vous avez la chance d'aller voir ça, allez-y.
Rest in my steps, the D.O. steps, the Air Force steps, the old stack of more cheddar. Fine shit, she chicken clacks, I fess. More trap up, cut this spot out and set. The next will come cat. My two white bitches, she sniff it like cat. She pull up to the club, she pass, I got fed. Real deal steps, steps, all there I vet. Fine shit, ever just pops on crack. Fine shit, ever just brings in my car. Quick to this back, on cement, c'est la vie de rapport. J'ai pas de rage, check jamais l'or. Punch on frog, cause she cracks, I saw. Arrête de claim these shit, ils vont porter my lore. Arrête de claim these shit, ils just turn de la tort. Quand on voit tous les gens dans la rue, on part. Même en français, j't'en avance. Depuis l'enfance, j'en ai rien à foutre de ce que ces négros pensent. J'amène le blick sur la piste de danse. On est à Montréal, j'm'en crise de ce qui se passe en France. Tout le monde sait, c'est nous qui créons les tendances. Moi et mon frère, on a laissé le rap game en France. Avant Kev, j'en donne une chance. C'est les leçons, on vise pas la DMV. Là, on les voit, j'ai juste ça pour lui. Back in the day, sur le bloc, on a passé des pieces. On a run up des places légendaires dans le street. Tu sais comment c'est, all we find, we keep. Ask around, nigga, my brother's keep. J'avais deux bats, mes flocons, veut 5 feuilles. Pour tous ceux qui veulent des features. Rap, c'est mes steps, j'te dis aux steps. J'te Air Force step, négro, j'tag comme mon chat. Fine shit, j'ai chicken clacks, I fess. Mon trap bump, connaît pas la recette. Les necks sont comme cat. My two white bitches, j'ai sniffé de la cat. J'pull up dans le club, j'sais pas ça, got fed. Real deal step, j'step sur les ravettes. Fine shit, ever just pop son crack. Fine shit, ever just brisé mon cœur. Quick to this bat, on se met sur la vie de rapport. J'ai pas de rage, j'check jamais l'or. Il penche son frère, que j'ai cracks, I saw. Arrête de claim these shit, ils vont porter ma lore. Arrête de claim these shit, ils just turn de la tort. Quand on voit tous les gens dans la rue, on part.
Stepper de Tiflocon.
Dans le Journal de Québec du 24 janvier, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC, dénonce avec force un revirement gouvernemental qu'elle qualifie d'indigne envers les infirmières ou infirmiers recrutés à l'étranger. Elles ont quitté leurs emplois, leurs familles et vendu leurs biens pour venir soigner et bâtir un avenir et contribuer à un réseau public fragilisé qui avait besoin de leur expertise. Elles ont répondu à l'appel du Québec avec courage, détermination et générosité. L'imposition du nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés prive désormais ces professionnels de l'accès direct à la résidence permanente, un engagement pourtant clair sur lequel elles avaient bâti leur projet de vie au Québec. La présidente de la FIC, Julie Bouchard, déplore que ces soignantes essentielles vivent aujourd'hui dans une angoisse quotidienne et une précarité administrative totale. Le syndicat presse le gouvernement de la CAQ de mettre en place des mesures transitoires d'urgence prévenant que ces départs forcés qui ne feront en fait qu'aggraver la fragilité déjà critique de notre réseau de santé. D'ailleurs, la mairesse de Montréal et les partis d'opposition au conseil municipal de Montréal vont adopter au conseil de ville ce soir une résolution demandant au gouvernement du Québec de faire un peu ce qu'on appelle ces clauses grand-pères sur le programme d'expérience québécoise pour éviter que plein de ces personnes qui sont venues ici avec cette promesse de s'établir ici doivent maintenant plier bagages et retourner chez eux. Sachez qu'il y a des gens qui ont acheté des maisons, ont commencé des vies et tout, et se retrouvent finalement le bec à l'eau. Hein. C'est pas facile pour ces gens-là. Tiens, j'ai le temps de vous parler justement de Phil Collins. À l'aube de ses 75 ans, la légende du rock Phil Collins se confie sur son état de santé fragile. Dans une entrevue accordée à la BBC, l'ex-chanteur de Genesis a révélé d'avoir désormais besoin de soins infirmiers à domicile 24 heures sur 24. Affaibli par de nombreuses chirurgies et de complications neurologiques, l'artiste états-unien d'adoption admet ne plus pouvoir jouer de batterie et ignore s'il pourra un jour remonter sur scène. Malgré ses épreuves, il dit porter un regard serein et reconnaissant sur sa carrière exceptionnelle. Après la pause, on va parler du Jeune Conseil de Ville de Montréal avec Jean Roux, qui est président du comité exécutif de ce Jeune Conseil, et on va aussi parler de l'agence Station Bleue.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Il est le plus grand homme de la terre, le plus froid de tout l'univers. Il ne connaît plus la souffrance, il ne reconnaît plus les gens.
Plus grand homme de la terre et de loin apparaît dans les miroirs enfumés, c'est moi. C'est le titre de la chanson de Matt.
Ouais, ben écoute, on fait pas trop dans la modestie. Alors, comprendre comment fonctionne la démocratie municipale, le Jeune Conseil de Montréal est une simulation qui permet chaque année à des jeunes de 18 à 30 ans de débattre de projets de règlements fictifs dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de Montréal. Notre invité, Louis Roux, et les présidents du comité exécutif du Jeune Conseil de Montréal. Alors, bon, bienvenue à l'émission.
Merci, bon matin.
Oui, Louis, on présente souvent le Jeune Conseil comme une école d'engagement. Concrètement, comment l'expérience transforme-t-elle la vision qu'ont les jeunes de la politique?
Bien, je vous dirais, il y a beaucoup de jeunes, premièrement, qui s'inscrivent au Jeune Conseil pour comprendre comment la politique fonctionne. Donc, on pourrait dire, t'sais, certains n'ont pas une idée concrète de ce que ça représente et ils s'intéressent. Ils veulent s'intéresser au sujet et ça leur permet d'un peu d'entrer dans ce monde-là. Donc, ça transforme la façon dont ils voient la politique, simplement en leur développant une vision de ce que c'est. Puis pour d'autres personnes qui sont déjà engagées, ben, ça leur permet d'avoir une expérience plus hands-on, on pourrait dire, sur qu'est-ce que ça représente vraiment d'avoir des discussions, des débats sur des règlements, dans le fond.
Et surtout, je trouve qu'à cette ère où les gens se méfient de tout le monde, puis il y a comme un désengagement politique, une méfiance vis-à-vis des institutions, est-ce que ça peut aider, ça?
Bien, je pense que oui. Puis surtout au Jeune Conseil, je dirais, tu sais, les discussions sont ouvertes, c'est un environnement très bienveillant. Donc, chaque personne peut avoir sa place, puis on encourage tout le monde à s'exprimer du fond de leur cœur, dans le fond. Puis je pense que ça fait du bien, justement, aux gens de réaliser que c'est possible.
Alors, en tant que responsable des projets de règlement, faudrait peut-être nous donner un exemple de thématique qui a été débattue parce que je pense que vos travaux sont terminés.
Hein? Exactement, c'était jusqu'à hier soir
jusqu'à hier
à 18h.
Ah, bon. Alors, est-ce qu'il y avait un projet quelconque important à discuter là-bas?
Bien, on en avait quatre.
Oui.
Le premier, c'est un règlement sur la démocratie municipale accessible. Ah. Lorsqu'on faisait on proposait, dans le fond, une réforme du cadre électoral de la Ville de Montréal pour rendre ça plus uniforme à travers la Ville parce que là, on sait présentement. Dans certains arrondissements, il y a des conseillers d'arrondissement. Dans d'autres, il y a seulement les conseillères de ville. Dépendamment de où c'est,
C'est d'une complexité incroyable.
Exactement. Ouais. Donc, le but du projet, c'était de simplifier ça. Tout le monde vote pour deux personnes. La mairesse serait élue un peu comme au provincial ou au fédéral. Le parti ayant le plus grand nombre d'élus nomme sa mairesse. Donc, ça, c'était un peu le premier projet sur lequel on est battu.
Ah, bien, peut-être qu'il faudrait le présenter à Mme Soria. Oui,
pourquoi pas.
Parlons de il y avait d'autres projets, donc oui.
Oui. Le deuxième, c'était sur un règlement sur la communication citoyenne et les réseaux sociaux. Donc, on voulait vraiment unifier et bonifier l'offre des communications de la Ville de Montréal. Donc, en séparant, présentement, les communications sont gérées dans le service des communications et des ressources humaines à la Ville. Donc, on se proposait de faire un département seulement des communications, bonifier ça, puis amener la Ville au 21e siècle, si on peut dire, en misant vraiment sur les réseaux sociaux pour toutes les communications de la Ville, pour rejoindre les gens plus jeunes, d'ailleurs, qui sont peut-être moins engagés de ce côté-là.
C'est vraiment des bonnes idées. Allez, on y va avec les deux autres.
Oui. Règlement sur l'avenir de l'eau.
Oui.
Donc, évidemment, dans le contexte environnemental qu'on connaît tous, on s'est rendu compte que Montréal, les Montréalaises consomment énormément d'eau, même comparé à d'autres personnes au Canada. Alors, l'idée, c'était de responsabiliser les gens en introduisant une tarification de l'eau.
Oh, ça, c'est pas populaire, ça.
C'est pas populaire, mais ça pourrait être nécessaire. Je pense que le Canada est une aberration au niveau mondial par rapport à ça. Donc, ça pourrait être un moyen de progresser vers une plus grande sobriété. On parlait aussi d'installation d'infrastructures plus absorbantes.
Oui, parce qu'un des problèmes, c'est qu'il y a beaucoup de gaspillage d'eau, mais qui n'est pas dû par les consommateurs.
Oui, exactement. Donc, le but avec la tarification, c'est d'avoir un peu plus de revenus pour financer le maintien et l'amélioration de nos réseaux aussi.
Et le quatrième projet?
Et le quatrième projet, c'est le règlement sur la valorisation et la protection du patrimoine paranormal et immatériel de Montréal.
OK.
Oui, donc ça sort vraiment du moule.
Oui, du champ gauche peut-être.
Exactement, oui. Donc l'idée, c'est justement de reconnaître que, dans le fond, le patrimoine des Montréalaises, c'est pas seulement les vieux édifices, c'est pas seulement le Mont-Royal, mais il y a toutes sortes de légendes, de trucs historiques qui sont pas nécessairement rattachés à des éléments physiques, mais qui font quand même partie de la conscience collective. Et le projet visait vraiment à mettre ces éléments-là en valeur, à leur donner une certaine protection. Donc, des lieux qui pourraient être reconnus comme hantés ou quelque chose du genre pourraient avoir un statut patrimonial spécifique qui accorderait certaines protections.
Ouais. Alors, Soria Martinez-Ferrada, est-ce qu'elle a participé? Est-ce qu'elle a vu ce que vous avez proposé à votre conseil?
Elle n'est pas venue cette fin de semaine.
Non.
On aimerait bien la voir l'an prochain. L'invitation est toujours
ouverte.
Vous
pourriez envoyer vos projets de loi. Moi, je trouve que c'est intéressant.
Oui. Ben, c'est certain que... Sûrement des gens dans son équipe en sont conscients. Mais oui, ce serait le fun de la rencontrer dans le futur.
Bon, je fais ça, j'ai fait un peu de blague, mais c'est parce que je trouvais intéressant ce que vous avez proposé et dans le contexte dans lequel on est présentement. C'est intéressant d'avoir c'est des idées quand même rafraîchissantes. La Jeune Chambre de Montréal insiste sur la diversité des parcours. Alors, est-ce qu'il faut être un étudiant en droit ou en politique pour participer ou c'est réellement ouvert à tout le monde?
C'est réellement ouvert à tout le monde. C'est sûr que, naturellement, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs personnes de sciences politiques et plusieurs personnes en droit qui sont participantes.
Et Louis, vous étudiez en quoi, vous?
Ah, moi, j'ai étudié en ingénierie.
Ah, d'accord. Bon, OK.
En logiciel et je travaille dans le domaine depuis quelques années. Donc, vraiment, la diversité des parcours est présente au Jeune Conseil. On a des médecins, on a des étudiants au cégep, on a des gens qui sont au travail dans le domaine communautaire. Donc, c'est vraiment, on essaie de rejoindre tous les horizons puis ça enrichit vraiment le débat, justement.
En fouillant donc sur les communiqués et les informations sur la Jeune Chambre, j'ai quand même appris que, j'ai appris que vous portez une attention particulière à l'accessibilité pour les jeunes personnes en situation de handicap. C'est très important chez nous à Canalem, si on est la voix de l'inclusion.
Oui.
Alors, quelles mesures concrètes ont été mises en place pour que la politique ne soit plus perçue comme un milieu fermé pour ces personnes-là?
Bien, cette année, on essaie vraiment de miser là-dessus, et par le passé aussi, mais cette année, une des mesures les plus importantes, c'est d'essayer de rendre notre cahier de participation le plus accessible possible. Donc, au cours de l'année, on a eu des formations justement pour nous aider à mieux comprendre de quelle façon on peut développer un document que n'importe qui peut utiliser de façon efficace. Et d'ailleurs, c'est moi qui ai été responsable d'assembler le cahier de participation cette année.
Oui.
Donc, j'ai eu l'occasion de découvrir un peu toutes les fonctionnalités de Word pour ce qui est des titres, pour l'utilisation de différents styles, pour le contraste visuel, donc être capable pour les gens un peu qui voient un peu moins bien de bien décortiquer le document, mais aussi pour les personnes non-voyantes qui utilisent les lecteurs d'écran, comment bien organiser les sections, identifier les images, les tableaux pour que la navigation se fasse bien. Donc, ça a été une occasion d'apprentissage pour moi, puis j'espère que certaines personnes des participants auront pu en bénéficier.
Oui, parce que même la police de caractère, moi, j'utilise Helvetica pour moi-même parce que je trouve que c'est plus facile à lire, mais effectivement, pour éviter...
Donc, on a mis à jour nos styles, puis le cahier va être amélioré pour les années suivantes.
Selon votre expérience, est-ce que le passage au Jeune Conseil sert de tremplin peut-être à certains ou certaines qui souhaiteraient s'impliquer peut-être de façon plus durable ou plus longtemps là, dans leur communauté, pas nécessairement politique, mais
oui,
et ça aussi.
Absolument, oui. Bien, dans la communauté, je veux dire, le Jeune Conseil en soi est une opportunité de s'impliquer. Au fil des années, on prend des plus grands rôles dans l'organisation. C'est du travail bénévole, vous savez. Toute la planification de l'événement, il n'y a personne qui a été payé pour ça, mais ça demande quand même des dizaines, des centaines d'heures au fil de l'année. Donc, c'est un engagement en soi de continuer à organiser le Jeune Conseil. Mais, comme vous l'avez dit, des gens qui veulent s'engager en politique, il y en a qui ont commencé au Jeune Conseil. On peut penser notamment à un des conseillers d'arrondissement, Gerlando Guaraggi, qui a été participant au Jeune Conseil l'an dernier. Et qui a été élu aux élections
En
novembre.
J'avais pas vu ça, mais merci de le dire,
Donc, puis c'est pas le seul, il y a des anciens conseillers, conseillères, le maire de Nicodère notamment, il y a longtemps, avait été participant du Jeune Conseil, puis il a abouti à la vraie mairie de Montréal. C'est quand même remarquable.
Il me reste une petite minute. Est-ce qu'on peut, pour la prochaine édition, comment est-ce qu'on peut s'inscrire sur ceux que ça intéresse?
Ça va se faire dans quand même plusieurs mois encore, mais généralement, les inscriptions se font au mois de novembre et décembre. Pour l'édition qui se passe en janvier, donc janvier 2027. Donc, je vous dirais jeuneconseil.org, c'est à regarder, ou sur tous les réseaux sociaux, évidemment.
Puis je rappelle donc que pour ceux qui sont intéressés, donc c'est jeuneconseil.org, comme tu l'as dit. Louis Roux, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Avec plaisir.
Merci.
Mais tu en veux que je sorte, je suis pas motivé. Je suis tanné de voir le temps s'écouler, à tourner en rond seul dans l'appart. Je regarde le plafond, les voisins bavardent. J'ai passé toute la journée à me casser la tête et me changer les idées. De passer toute la soirée à te laisser désirer. Et j'étais quasiment parti, le temps s'est ralenti. Senti ton énergie traverser mon corps. Nos yeux se sont croisés quand je t'ai regardé. T'as saisi mon bras, je t'ai suivi dehors. On va rouler des kilomètres, des drive all night, you and I. On va partir et disparaître, it feels alright, toi et moi. On va rouler des kilomètres, des drive all night, you and I. On va partir et disparaître, it feels alright, toi et moi. vieux pied d'emporte quand tu m'as appelé. Rendu dans le couloir, c'est là que j'ai décidé. Sauter dans mon char, to go for a ride. Et prendre la route que tu m'as dessinée. De passer toute la journée à me jouer dans la tête et me changer les idées. J'ai passé toute la soirée à te désirer. Et j'étais quasiment parti. Le temps s'est ralenti. Senti ton énergie traverser mon corps. Nos yeux se sont croisés. Quand je t'ai regardé, t'as saisi mon bras, je t'ai suivi dehors. On va rouler 10 kilomètres. We drive all night, you and I. On va partir et disparaître. It feels alright, toi et moi. On va rouler 10 kilomètres. We drive all night, you and I. On va partir et disparaître. It feels alright, toi et moi. On va rouler 10 kilomètres. On va partir et disparaître. It feels alright, toi et moi. On va rouler 10 kilomètres. On va partir et disparaître. It feels alright, toi et moi.
Toi et moi, c'est le nom de la chanson de Jay Trépanier.
Toi et moi et toi, tout le monde ensemble. Bien, aujourd'hui, on marque un jalon important pour le milieu culturel québécois. Depuis un quart de siècle, l'agence Station Bleue agit comme une courroie de transmission essentielle pour faire rayonner les talents d'ici, mais aussi aux quatre coins du globe. L'agence, fondée en 2000 par Annick Patricia Carrière et Gabriel Paré, célèbre donc ses 25 ans d'existence et nous recevons Annick Patricia Carrière. Bienvenue à l'émission.
Bonjour, M. Chabot.
Ça va bien?
Ben oui, merci beaucoup pour cette belle invitation.
Ben c'est un plaisir. Alors, lorsque vous avez fondé l'agence en 2000, il y avait un vide que vous souhaitiez combler dans le paysage artistique. C'était lequel?
Ben en fait, moi, je suis musicienne. Je suis de formation de musique classique. J'ai étudié au conservatoire et j'ai travaillé comme travailleur culturel dans le milieu de la musique contemporaine. Et puis, mon constat était que pour ce qu'on appelle les musiques de concert, donc la musique classique, le jazz, les musiques du monde, il n'y avait pas beaucoup d'agents, de gérants d'artistes, contrairement à ce qu'on connaît davantage dans le milieu de la musique populaire. Donc, j'étais plus jeune, de 25 ans, bien entendu, plein d'énergie, plein d'idées. Et avec mon associé de l'époque, qui est toujours mon associé, ben en faisant le constat que nos beaux musiciens avaient besoin probablement d'aide, et ben on s'est dit tout simplement, ben alors on se lance, on essaie, et puis essayons de voir ce qu'on peut faire. Puis on est toujours là 25 ans plus tard, voilà.
Mais on parle de toute une institution, parce qu'en 2015, si je ne me trompe pas, vous avez ajouté oui. La production de spectacles à vos champs d'action. En quoi ce nouveau volet a changé votre relation avec les artistes?
Ben, tout simplement, c'est que quand on travaille en fait avec un artiste, un interprète, on l'accompagne dans ses projets, dans ses idées. Donc, on a un échange direct sur ce qu'il est ou sur ce qu'elle est. Donc, par exemple, c'est un pianiste. Nous, on travaille entre autres avec le pianiste Charles-Richard Hamelin qui a gagné au concours Chopin à Varsovie en 2015. Mm-hmm. Nous, en fait, on accompagne les artistes jusqu'à temps qu'ils rentrent sur scène. Le fait de produire des spectacles, en fait, c'est que ça réunissait à la fois ma connaissance musicale et que je pouvais jumeler, en fait, maintenant avec ma connaissance du milieu. Et puis, avec d'autres collègues, on avait des idées ensemble de faire briller du répertoire. Donc, notre premier projet de production s'intitulait « Les quatre saisons d'André Gagnon ». Donc, mon collègue Patrice Saint-Pierre et moi, bon, on adorait la musique de d'André Gagnon. Et puis, ben, on s'est dit, on va faire un spectacle autour de sa musique. Et on a fait appel à Stéphane Aubin, puis avec la comédienne et chanteuse Kathleen Fortin pour finalement faire plus de 60 représentations de ce spectacle-là aux quatre coins du Québec. Donc, c'est un peu de cette chanson qui est née. Puis après ça, on a continué l'aventure avec un piano pour Noël, toujours autour dans l'esprit d'André Gagnon, mais cette fois-ci, c'est toujours avec Stéphane Aubin, mais avec la participation de Marie-Michel Desrosiers, que vous connaissez probablement.
Ben oui. Alors, c'est tout un spectacle, ce que vous proposez. En fait, oui. Vous dites que la rencontre entre l'artiste et le public est la même, que ce soit à Sept-Îles ou à Paris. Alors, comment on maintient cette vision des choses après 8000 concerts conclus. C'est quand même pas rien. Là.
Oui. Ben, écoutez, nous, en fait, il y a des artistes extraordinaires au Québec qui peuvent bien vivre au Québec par leur offre artistique, ce qu'ils sont. Tandis que nous, les artistes en musique de concert, il y a un peu moins de diffusion de spectacles en musique de concert, mais en même temps, la beauté de la chose, c'est que il y a tout un marché à conquérir. Donc, rapidement, on s'est rendu compte que pour être capable de bien s'investir avec les artistes, on devait démarcher dans d'autres provinces, dans d'autres pays. Donc, au fil des voyages que j'ai faits, puis des congrès, nous, on fait souvent des congrès un peu dans le style du Salon du Livre. Là. Oui. Donc, c'est des journées professionnelles où est-ce qu'on rencontre les programmateurs des différentes salles de spectacle qui se retrouvent, en fait, dans les différentes villes et municipalités du Québec. Ailleurs. Donc, au fil du temps, on s'est promené, puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un marché de possibilités pour nos artistes. Donc, là, à ce moment-là, ben, il faut développer le réseau de contacts, la compréhension. Je vous dirais que je suis devenue pas mal bonne en géographie aussi, pour bien comprendre, puis tous tout ce qui vient avec. Là, en fait, comme pour les États-Unis, on a besoin des visas, il y a une fiscalité différente aussi par pays qui sont à apprendre, à découvrir. Des tempêtes de neige comme aujourd'hui, là, on a des artistes qui sont coincés, qui sont sur la route, en fait, là, au Nouveau-Brunswick. Donc là, ça amène toutes sortes de défis qui sont rattachés à notre métier.
Mais vous devenez presque une agence de voyage en même temps, finalement.
Ah oui, vous avez raison. C'est drôle que vous le souligniez, mais oui, j'ai vraiment... Il y a beaucoup de choses. Tous les petits bateaux là, en Colombie-Britannique, là, je les connais pas mal tous. Là, pour aller sur les îles magnifiques. Donc, on s'ennuie pas parce que, dans le fond, on découvre en même temps un horizon de différents pays, du public qui est partout. Donc, il y a quelque chose de très agréable, en fait, de compliqué, là, je ne vous le cacherai pas, là, mais en même temps, qui nous apporte un plaisir. Puis je vous dirais que quand j'ai l'occasion d'assister au concert, puis que l'artiste rentre sur scène et qu'il y a tout un public qui applaudit, ben il y a un brin de fierté, en fait, à amener tous ces artistes-là sur les différentes scènes. Je pense à Charles-Richard Hamelin, là, qui est en tournée là, au Japon. Il m'a envoyé des petites photos l'autre jour, puis je me suis dit, ben on aime ça que nos artistes talentueux rayonnent ici et ailleurs. C'est important.
Tout à fait. Des chiffres qui frappent, parce que je lisais ça aussi, vos artistes se sont produits dans 26 pays et dans plus de 40 États états-uniens. On va parler de ce que c'est le défi des États-Unis. Là,
allez donc!
C'est quoi le plus grand défi pour percer ce marché? Puis là, je me demande, ça me dit peut-être que les défis vont changer. En fait, ont changé depuis un an, mais allons-y. Oui.
Ben, écoutez, on va commencer par, premièrement, il y a la connaissance du marché, parce qu'il faut toujours se rappeler, avoir une nuance costume, pour moi, c'est une image qui vaut mille mots. La population entière du Canada, c'est moins que la population de l'État de Californie. Mmh. Donc, il y a un marché incroyable qui est sous nos pieds, qui est juste à côté de nous, nos voisins, c'est-à-dire de par la population, de par le nombre de salles extraordinaires. Donc, c'est notre voisin, c'est à côté. Quand j'ai commencé à faire des marchés, comme vous expliquez, le professionnel, le plus grand défi était de connaître les gens. Et ça, avec le temps, à force d'y aller, quelqu'un m'avait dit ça va prendre au moins 3-4 fois avant que les gens commencent à croire que vraiment vous êtes là. Fait qu'on a persisté en ce sens et on a quand même eu des beaux résultats. Fait qu'on est très, très contents de ce qui se passe. Là où, en ce moment, depuis un an et quelques jours, le défi, c'est d'obtenir les visas. Donc là, parce qu'on a besoin de visas de travail pour aller aux États-Unis.
Oui.
Et là, les délais sont rendus vraiment très longs. Et il faut payer des extras pour être capable d'obtenir les visas avant de pour être capable d'entrer aux États-Unis pour travailler de façon légale, bien entendu. Je voudrais que les visas, c'est le questionnement. Puis durant tout l'automne, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est toutes ces années-là à voyager aux quatre coins là, des États-Unis, je me disais, est-ce que j'abandonne, puis finalement, je suis allée, il y avait un autre congrès, comme je vous expliquais, oui. Là, à New York, puis c'est sûr qu'on était dans une bulle, je voudrais plutôt démocrate, mais je me suis dit, ben non, faut persister, puis la situation, un jour, va probablement un peu se calmer.
On ne
peut
que l'espérer, mais est-ce qu'il y a des artistes, je pose la question comme ça, est-ce qu'il y a des artistes qui disent, oh, mais si on va attendre quelques années avant d'aller aux États-Unis, ça ne nous le tente pas, parce que c'est quand même difficile de passer, ne serait-ce que l'immigration américaine, hein?
Oui, ben c'est du cas par cas. Je voudrais, il y a des artistes qui décident, pas juste parmi nous, mais des artistes en général qui décident un peu d'attendre, mais tu sais, c'est comment dirais-je, faut pas non plus trop attendre parce qu'à un moment donné, ben les gens nous oublient hein, dans ce milieu-là.
Ouais.
Donc il faut rester actif à leur esprit. Et puis moi, je pense que en fait, là, suite à mon dernier séjour, je me suis dit qu'il fallait persister puis pas se laisser abattre. Et ça va finir par être. On va être capable de tourner la page, on peut l'espérer prochainement. Mais c'est sûr que c'est un souci, une préoccupation et des frais supplémentaires pour pouvoir aller travailler. Ça, c'est clair.
Parlons de vous. Personnellement.
Je dirais que les douanes, là, étonnamment, il n'y a personne aux douanes. Donc, c'est pas ça le problème. C'est pas passer aux douanes qui est un problème. Il n'y a absolument pas d'attente.
Bon.
Le problème, c'est d'avoir le bon papier pour entrer.
Ben, c'est ça que j'allais dire. Des fois, c'est compliqué, mais c'est ça.
Oui. Mais là, bon, une fois qu'on les a, ça y est, on respire, puis on y va.
On va parler de vous personnellement. En 2024, vous avez reçu le prix Uriel Loft de CINARS pour votre contribution au rayonnement international. Est-ce que ça représente quoi pour une agence comme la vôtre là, qui fête ses 25 ans?
Bien, premièrement, je vais peut-être prendre le temps de rappeler. Moi, une des personnes qui m'a beaucoup, beaucoup aidée, c'est justement Uriel Loft. Quand j'ai commencé, là, ça a été vraiment mon mentor. Les gens le savent peut-être pas, mais ça a été aussi le conjoint de Ludmila Chirière, qui est à la tête de l'ouverture de les grands ballets canadiens, quand même. Mm-hmm. Donc, ce sont des gens qui ont quitté la Russie et l'Ukraine, donc pour venir habiter ici à Montréal. Fait que c'est des gens vraiment des bâtisseurs. Et Uriel Loft, ben, c'est lui qui a fait connaître la Human State, c'est des grands ballets de jazz, des grandes compagnies de danse surtout. Et il y avait toujours cette générosité-là, en fait, de partager sa connaissance en fin de carrière à de jeunes agents. Et puis moi, ben, j'ai eu la chance de pouvoir être dans une des formations, en fait, en 2000 exactement, là, pour nous donner des clés pour devenir pour essayer en tout cas de devenir des bons ambassadeurs pour nos artistes ici à l'étranger. Donc quand j'ai reçu ce prix-là, ben ça m'a fait d'autant plaisir que Uriel avait été mon mentor. Donc je vous dirais que j'essaie de garder toujours dans ma tête comment faire pour, à mon tour, pouvoir partager les connaissances, parce qu'il n'y a pas vraiment d'école. En fait, il n'y a pas d'école.
On va devoir s'arrêter là-dessus. Annick Patricia Carrière, cofondatrice et directrice de l'agence Station Bleue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup. Bonne journée.
J'ai le temps de vous dire que c'est toujours encore l'hiver. Inutile de le répéter, c'est là pour un petit bout de temps, mais sérieusement, beaucoup de neige encore au Québec et dans l'est de la province, et puis en Ontario, on se relève de ça, d'une bonne tempête. Alors, soyez prudents sur les routes, et puis vérifiez si vous devez voyager aujourd'hui. Il y a plein de vols d'annulés aux aéroports, soit de Toronto ou de Montréal. Je m'appelle Denis-Martin Chabot. Merci à toute l'équipe. Merci à Mathieu Tessier. Merci à Hélène Denis, qui sera de retour demain. Et moi, je vous donne rendez-vous à 17h à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, ici à Canal M.